Donc je suis chargé de recherche CNRS depuis octobre et affecté donc ici à la République des Savoirs à l'ENS. Alors, dans son texte, Jean-Luc Nancy commence par souligner le caractère scandaleux de l'expression « la fin de la philosophie » venant d'Heidegger, une expression qui, je cite, « hérisse le poil, voire déchaîne la fureur de ceux qui l'entendent ». Certaines dimensions de ce scandale sont évidentes, somme toute assez peu intéressantes. Évoquer la fin d'une tradition de plus de 2000 ans, ou de manière plus prosaïque, la fin d'une discipline institutionnalisée, en France, avec ses ponts étranges entre l'université et le lycée, que sont le concours de l'agrégation et le CAPES, contribuant à constituer un circuit quelque peu fermé, une sorte de clôture, définissant une identité. Mais dans ma perspective, très influencée ici par Bernard Stiegler, ce caractère de scandale prend une forme particulière et fort peu différente. Comment envisager la fin de la philosophie alors précisément que la relation à la sagesse semble être aujourd'hui particulièrement distendue? Je pense tout d'abord et bien sûr à l'incapacité collective à traiter l'impasse climatique dont la connaissance date pourtant au moins des années 70 et les efforts diplomatiques à ce sujet datent eux au moins des années 90. D'ailleurs, cette incapacité d'action, il y a aussi la présence des anciens adversaires des philosophes, les sophistes, qui sont passés en quelque sorte de l'artisanat de la rhétorique à l'industrialisation du marketing, puis du neuromarketing, notamment le développement d'applications conçues pour capter l'attention des utilisateurs. On peut voir ici en quelque sorte le cauchemar d'Heidegger et même un cauchemar au-delà de celui d'Heidegger. Du côté des sciences, des stratégies particulières, décrite par l'agnostologie, cible la connaissance. Ces stratégies visent la production d'ignorance ou de doute pour défendre des intérêts typiquement économiques, comme dans le cas des industries du tabac ou dans le cas du réchauffement climatique. Il ne s'agit pas ici de poser la philosophie en l'opposant à ses adversaires, mais de poser qu'elle devrait, ou du moins pourrait, avoir un rôle historique en cette circonstance. Car au-delà de cette domination des sophistes, incidemment ils sont aussi très présents dans les sciences, nous sommes globalement dans ce que Bernard Stiegler a appelé la disruption, une situation où les changements technologiques sont tellement rapides que la société n'est plus en capacité d'y répondre pour en imiter les effets néfastes. Et aux changements technologiques, il faudrait ajouter aussi les changements du vivant qui sont emportés par les changements technologiques. Un bon exemple de cette disruption est Uber. Le développement de cette entreprise est passé d'abord par le fait de court-circuiter le statut des taxis. Par exemple, les licences de taxi constituent aussi, le moment venu, une partie de leur retraite. Dans d'autres cas, par exemple Uber Eats, il s'agit de court-circuiter le salariat pour en avoir les avantages, côté employeur, mais sans les inconvénients. Ces entreprises ont travaillé sur des techniques telles que le nudge, permettant de contrôler les chauffeurs et livreurs sans subordination formelle et juridique. Ces techniques ont d'ailleurs été reprises, d'après Barbara Stiegler, par la présidence française. On ne peut pas dire ici le gouvernement, étant donné la configuration singulière en France de la gestion de la pandémie. Donc c'est bien la présidence. Un autre exemple dans le monde académique est la bibliométrie, rendue aisée par les bases de données bibliométriques qui a un poids significatif dans certains pays et disciplines et favorise mécaniquement certaines langues et traditions en philosophie, écartant l'évaluation qualitative des travaux de recherche. À un niveau plus individuel, et un niveau qui vient aussi à abîmer la philosophie et les sciences, la lecture sur écran contribue à cette disruption, car elle n'est pas la même que sur papier, y compris d'un point de vue neuronal, comme l'a montré Marianne Wolf. Ce qui se passe pour la lecture, c'est que c'est une exaptation, c'est-à-dire une sorte d'improvisation très récente du point de vue évolutif, ça en gros 2000-2500 ans, la massification est encore plus récente. Et donc, comme c'est une sorte d'improvisation, c'est quelque chose de très fragile, et le changement de support, le changement des affordances, empêche l'automatisme de la lecture de se produire normalement, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à lire de manière critique ou en imaginant des choses sur écran que sur papier. Bref, la lecture profonde sur écran, le deep reading en anglais, donc notamment la lecture critique, et a fortiori la lecture philosophique, est plus difficile et demande à minima un apprentissage particulier. Dans le même ordre d'idées, Chage et Divia soulignent tous deux que nous sommes dans une situation où la critique, une part essentielle de la philosophie depuis Kant, même si la déconstruction va au-delà en un sens, ne fonctionne plus et que nous sommes au contraire dans une situation où nous sommes criticalisés, où les relations entre les systèmes changent et ne sont plus familières, alors que l'intervalle de temps nécessaire à la critique n'est plus disponible et devient fort rare. Tout ceci conduit aux conséquences politiques grotesques que nous pouvons tous observer, l'incapacité collective à répondre à un péril mortel parfaitement identifié, et la prolifération des diversions les plus grossières et régressives. Si la philosophie semble bien être requise par cette situation, il n'est donc pas évident qu'elle soit en situation de jouer un rôle, car elle est elle-même affectée par la disruption et les limites de la critique. C'est aussi à travers ces questions que j'interprète le passage final du texte de Jean-Luc Nancy. Allons-nous continuer à nous satisfaire de notre pauvre autonomie philosophique? Ou bien, pourquoi pas en finir, ayant apporté la preuve, que personne ne demandait, d'une superbe, majestueuse et foisonnante inanité? Pour Bernard Stiegler, penser avec un E est penser avec un A, c'est-à-dire prendre soin. Autrement dit, penser, ce serait d'abord et surtout prendre soin des vivants et des dispositifs techniques, étant entendu que toute situation, et notamment tout objet technique envisagé comme pharmacon, comporte une certaine toxicité. Pour ma part, je n'ai pas tranché dans quelle mesure je suis en accord avec cet avis, mais en tout cas, dans la disruption, tout demande un soin et un effort de pensée particulier, y compris les sciences et la philosophie elle-même. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'on peut voir les deux thèmes traités actuellement dans le journal Philosophy World Democracy, celui portant sur la philosophie et celui portant sur la science, qui parlent tous deux à la fois des fins, de fin et de commencement, concernant à la fois donc les sciences et la philosophie. Donc sans entrer nécessairement dans la définition ou les fondations de la philosophie, nous pouvons toutefois la caractériser. Convenons à minima que si la philosophie n'est pas capable de prendre soin de la situation actuelle, de surmonter là où est l'estase actuelle, comme le disent Charge et Divia, alors elle devrait sans doute prendre fin ou tout de moins changer de nom en reconnaissant que son lien avec la sagesse est brisé. À ce stade, il est important de faire quelques remarques sur la philosophie en tant que discipline. Ma position à cet égard est un peu particulière. En effet, je travaille entre la philosophie et la biologie théorique, cette dernière n'existant pas institutionnellement, entre philosophie, biologie, mathématiques, physique et informatique. C'est un peu compliqué et encore je ne suis pas exhaustif. Cette position me permet de souligner que les disciplines mettent souvent en leur centre des objets qui servent de référence commune pour l'appartenance à la discipline. Par exemple, en physique, il s'agit de l'écriture mathématique et notamment des équations considérées comme fondamentales. Leur interprétation, donc en physique, est par contre sujet de désaccords divers. Ces désaccords sont d'ailleurs insuffisamment travaillés, comme le souligne Jean-Marc Lévy-Leblond, car ces désaccords sont plus proches d'un travail conceptuel et plus proches de la philosophie, qui n'est pas assez prise au sérieux dans ce domaine. En biologie des organismes, comme il n'y a pas à proprement parler de théorie ni de mathématiques, ce sont les dispositifs expérimentaux et les données qui sont au centre et permettent la reconnaissance entre pairs. En philosophie, il s'agit des corpus de textes qui donnent une position dans le champ de la philosophie et qui servent de base et de point de départ pour les travaux, par exemple les travaux de thèse. Incidemment, dans ce domaine, la philosophie et l'analytique est un peu particulière. Voulant imiter les sciences, cette dernière met en avant ce qui a été publié récemment dans son champ, un peu comme dans une bulle de filtre, et aussi met en avant une utilisation très simple de formalisme logique et de définitions plus ou moins formelles. Il s'ensuit que cette philosophie, la philosophie analytique, néglige mécaniquement l'importance de l'historicité des expressions et concepts utilisés, et comme l'a dit Chage, néglige au fond la politique en général. Mais revenons à la philosophie. Cette centralité des corpus et de leur délimitation leur donne un rôle structurant socialement et intellectuellement. Cela est vrai d'un point de vue géopolitique, comme Divia va sans doute le dire tout à l'heure, Divia Echage et Jean-Luc Nancy l'ont souligné dans leur texte. Cela est vrai aussi par l'exclusion des sciences et des techniques, sauf bien sûr pour les philosophes spécialisés, je pense à la philosophie des sciences, notamment anglo-saxonne, et quelques rares exceptions qui entrent dans le détail de ces champs, donc sciences et techniques, tout en restant philosophes. Je pense bien sûr à Bernard Stiegler, à Paul-Antoine Miquel qui nous écoute, et à d'autres. Ce que je voudrais souligner, c'est que cette situation engendre ce que Bernard Stiegler appelait de la bêtise, qui se manifeste ici, donc en philosophie, par une discussion parfois extrêmement fine des textes du corpus choisi, mais une cécité vis-à-vis des autres, qui pourtant sont parfois essentiels pour comprendre les premiers. D'autant que les autres textes, par exemple les textes scientifiques, ne fonctionnent pas de la même manière que les textes philosophiques. Ils peuvent comporter des raisonnements mathématiques ou des comptes rendus d'expériences empiriques, qui ne sont pas que des comptes rendus d'expérimentation, mais la trace d'un rapport au réel. Cela est parfois le cas aussi en philosophie, au sens où la compréhension de certains textes demande un certain rapport à l'expérience pour être lu correctement. On peut penser à la phénoménologie, mais en fait, on pourrait dire ça presque de toute la philosophie. En plus de cette structuration matérielle du champ philosophique actuel, il est intéressant de noter comment Heidegger, tout comme Deleuze, justifie l'autonomie de la philosophie en la séparant soigneusement de la science. Cette réaction est d'abord une réaction inquiète devant la croissance des sciences et la prolifération des questions qu'elle aborde. La perte de la philosophie naturelle devenue science physique et biologique, puis l'émergence des sciences humaines et sociales. Cette inquiétude a été consacrée aussi par les effets symboliques désastreux du débat entre Bergson et Einstein, ou dans une moindre mesure, mais qui me concerne plus directement, par le retrait de Canguilhem face à la biologie moléculaire. Incidemment, Derrida s'en était un peu mieux sorti face à l'émergence de cette biologie moléculaire, mais en centrant néanmoins son travail sur la textualité comme point d'entrée dans cette biologie, ce qui pose problème pour la biologie, je trouve. Mais donc, cette réaction est aussi empreinte de l'idée d'une certaine supériorité de la philosophie qu'il s'agirait donc de fonder tout en la délimitant. Pour ce faire, Heidegger se concentre sur ce qui pourrait ou devrait être le propre de la philosophie. Ce faisant, il consacre aussi le retrait de la philosophie par rapport aux questions que les sciences, voire les technologies, sont alors en situation, en l'absence de la philosophie, donc, de préempter, et donc le retrait vis-à-vis de la matérialité de des questions traitées par les sciences et les technologies. Cette position, confortable institutionnellement, une forme de division du travail au fond, n'est plus tenable s'il s'agit de maintenir, voire de restaurer, un rapport avec la sagesse dans une période donc qui la requiert particulièrement. Donc plutôt que de se concentrer sur le propre de la philosophie, il est peut-être temps de passer à une philosophie qui ne rechigne pas à se salir. Par exemple, en prenant en compte la technique et la technologie, comme le soulignait bien évidemment Bernard Stiegler, mais aussi finalement reprendre en compte les sciences et l'étrange matérialité d'un monde qui n'en est plus un. Il ne s'agit donc pas de préserver la pureté d'une tradition et une généalogie bien identifiées, mais au contraire de croiser et de recroiser les perspectives. Cela suppose bien sûr aussi de ne pas négliger les corpus classiques, tant parce qu'ils nous constituent d'une part, mais aussi parce que cela nous condamnerait à répéter les heures et malheurs du passé à l'aveugle. C'est donc aussi vers une forme de matérialisme bâtard que je propose de s'orienter. À ce stade, il est intéressant d'interroger le concept d'autonomie. L'autonomie, biologiquement, n'est pas l'opposé de l'hétéronomie. Par exemple, les êtres vivants à la fois produisent leur histoire en générant leurs formes et fonctions, mais ces formes et fonctions sont fondamentalement dépendantes de leur relation à leur milieu, relation qu'ils codéfinissent. L'autonomie est certes une certaine latitude dans la genèse des normes, mais elle passe aussi par des relations de dépendance vis-à-vis du milieu, soulignées déjà par Canguilhem. Et les changements de normes sont tout autant une réponse aux infidélités du milieu que d'origine intrinsèque. La différence entre intérieur et extérieur, qui est derrière le terme intrinsèque, pour les organismes que nous sommes, n'est pas du tout évidente. La moitié des cellules en nombre de cellules, pas en masse, qui nous constituent, sont en fait des bactéries, notamment dans le système digestif. Ces bactéries ne sont pas qu'une interface, à la marge de l'organisme, elles influent profondément sur son développement et sa physiologie. Mais au-delà, comme l'ont souligné Bernard Stiegler d'un côté et les biologistes Lotka et plus tard Denis Nobel, l'organisme, dans le cas d'Homo sapiens, comprend en un sens des artefacts qui participent à le constituer fonctionnellement. Les lunettes que je porte, qui s'ajoutent à mes yeux pour leur permettre de voir, et plus profondément les écrits, par exemple, qui servent de rétention tertiaire et qui participent à constituer la capacité de mémoire. Donc, en biologie, la distinction entre intérieur et extérieur n'est pas forcément à abandonner, mais à relativiser, au sens de la relativité. Ce qui est propre, et la propreté, revient à retirer ce qui est supplémentaire et qui s'allie. Mais cette logique ne correspond plus à la manière d'appréhender le vivant en biologie ni en médecine, avec des débats autour de la question de l'hygiène notamment. Celle-ci s'éloignant actuellement d'un concept un peu purificateur qui a pu exister notamment au début du XXe siècle. Revenons au cas de la séparation entre philosophie et science. Celle-ci est relativement récente, quelques siècles au plus, et s'illustre bien symboliquement par la double identité de Hausdorff, grand mathématicien, cofondateur de la topologie moderne, mais possédant aussi en quelque sorte une identité secrète sous le nom de Paul Mongrai, un philosophe nietzschéen. Donc nous sommes là au début du XXe siècle. Bien que cette séparation ait été profondément entérinée par les deux parties, il est intéressant d'envisager comment réagencer les choses. La science sans pratique philosophique est mutilée et conduit à l'irrationalité illustrée par l'idée d'une science basée sur le machine learning et donc incapable de critiquer ses propres prémices tout autant que ses fins. Réciproquement, la philosophie sans lien avec les sciences se prive d'une part essentielle de la connaissance du monde et de son devenir, mais aussi de la critique de cette connaissance. Cette critique est tout aussi absente lorsque la philosophie se met au service des sciences, et bien souvent, au fond, au service des technologies et de technologies qui puissent être déployées sur un marché. Plutôt que d'envisager la philosophie comme réunie autour de son objet propre et son corpus propre, nous pouvons envisager comme ne s'étant pas séparé des sciences ou même des technologies, mais s'étant retiré ou étant expulsé, à tort dans les deux cas. On peut envisager que la philosophie et ses autres disciplines s'interpénètrent sans qu'il n'y ait de hiérarchie naturelle entre elles, de sorte à ce que les questions qui soient à la fois scientifiques et philosophiques soient proprement traitées. Mon discours s'approche du point de vue de Canguilhem, en un sens, mais il s'agit de revendiquer la part philosophique des sciences et le droit, voire le devoir, d'intervention philosophique dans les sciences, non comme discours de clarification ou discours supplémentaire, comme les discours éthiques, bien souvent, mais au cœur des pratiques. Donc à ce stade, je vais dire quelques mots sur mon travail par rapport à la biologie, qui peut permettre d'expliquer aussi et peut-être de sortir un peu de l'ornière de la cybernétique dans laquelle, en un sens, Heidegger était tombé. En un sens, la cybernétique en biologie, actuellement, est plutôt un pis-aller pour la modélisation, c'est-à-dire un cadre conceptuel qui est utilisé parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose de mieux, mais un cadre qui n'est somme toute que très peu satisfaisant. Et ce qui s'est passé dans la cybernétique et dans l'engouement qui a suivi avec ensuite la seconde cybernétique, etc., c'est quelque chose où, à mon avis, il a manqué un travail critique, peut-être même en un sens une déconstruction de la manière mathématique d'envisager le monde, manière mathématique d'envisager le monde qui provient d'abord et centralement de la physique, et donc dont je vais parler un petit peu pour ensuite revenir à la biologie. Alors, cette utilisation des mathématiques pour comprendre le monde a une origine théologique. Il s'agissait d'abord de lire le second livre écrit par Dieu, qui est la nature, et qui était écrit en langage mathématique, comme le disait par exemple Galilée. Donc il y a ici une origine théologique et une centralité des mathématiques pour la compréhension du monde en physique. Ce type de compréhension a quelques propriétés particulières, remarquables, structurantes, et qui posent problème. L'idée en physique est de comprendre le changement sur la base de l'invariance, c'est-à-dire qu'on pose des invariances et des transformations sous-jacentes, des symétries. Et ici, la présence dans cet amphithéâtre est cruciale, puisque justement les symétries sont décrites comme des groupes qui ont été en quelque sorte inventés par Galois. Donc, la physique procède ainsi, donc en comprenant le changement sur la base de l'invariance. Plus précisément, ces changements sont compris comme des déplacements dans un espace mathématique prédonné. Et notamment, on peut penser ici à la critique de Bergson, justement, de la pensée, qui est au fond une critique de la pensée physico-mathématique par rapport à la biologie, lorsque Bergson dit que pour le vivant, pour l'humain aussi, il y a de nouveaux possibles, des choses qui ne sont pas possibles avant d'exister. Ce qui est important de voir, c'est que ce cadre, qui est celui de la physique, constitue aussi lui aussi une clôture. C'est-à-dire que l'idée est de saisir sur le plan des mathématiques, par les mathématiques, les relations causales qui sont supposées avoir lieu dans les objets. Et cette écriture mathématique suppose aussi que l'on peut analyser du coup ce qui va se dérouler sur du papier ou avec un ordinateur, indépendamment ou en se déconnectant du phénomène réel concret. Cela passe aussi par le fait que, du coup, cette description mathématique va pouvoir décrire une pléthore de situations en même temps. En ce sens, la physique et le raisonnement physico-mathématique procèdent sur des objets que l'on peut qualifier de génériques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de spécificité. Donnons quelques exemples de cela. Par exemple, la vitesse de la lumière est définie comme la vitesse de la lumière dans le vide. Et c'est n'importe quelle lumière, c'est pas une lumière particulière. Donc cette vitesse de la lumière va permettre de définir le mètre. Et le mètre étalon, c'est juste un intermédiaire, mais la définition du mètre, elle est théorique, c'est à partir de la vitesse de la lumière dans le vide. Donc la définition du mètre est parfaitement générique, on pourrait communiquer avec des extraterrestres sans communiquer de matière, sans leur communiquer de matière, et ils pourraient définir le mètre de la même manière que nous. Un autre exemple, peut-être un peu plus technique, mais très important dans ce rapport aux mathématiques, c'est la chute d'un corps. La chute d'un corps demande, dans sa compréhension newtonienne ou einsteinienne, même si vous voulez, de prendre ensemble, donc de comprendre, tous les instants de la chute par une seule même équation, et en plus de prendre en fait ensemble n'importe quel objet faisant cette chute. Donc la physique procède vraiment par cette compréhension générique, parce qu'en fait la représentation mathématique en quelque sorte clôt sur elle-même, ça rejoint tout à fait ce que disait Chage, et permet d'appréhender les objets. Alors là-dessus, sur cette base, on peut se pencher sur la question de la biologie et d'évolution. Et dans l'évolution, en fait, parmi les évolutionnistes, il y a deux branches très différentes. Il y a une branche qui a essayé de récupérer le cadre de la physique, notamment dans la génétique des populations, notamment aussi pour utiliser son prestige, mais aussi avec quelques enjeux qui étaient pertinents. Mais il y a une autre branche qui fait quelque chose de complètement différent et qui est un peu négligée dans son impact proprement philosophique, qui est la branche plus naturaliste de l'évolution, des biologistes de l'évolution, et qui, elle, ne va pas du tout chercher à imiter la physique, mais va au contraire chercher à embrasser, à accueillir le vivant tel qu'il est dans sa diversité. Et pour ce faire, ces évolutionnistes-là vont complètement se détacher de la perspective physique et vont dire que pour définir un groupe d'organismes, on va non pas chercher à décrire ce qu'il fait causalement, donc comment il est, mais on va seulement décrire d'où il vient dans sa généalogie. Et donc, partir de l'idée de définir par d'où un objet vient, politiquement ça peut sembler régressif, mais ici c'est le contraire, en définissant les objets par leur provenance, leur origine, on laisse toute latitude à ces objets pour changer, et on est capable d'accueillir tous les changements qui peuvent être observés dans la nature, et donc toutes les métamorphoses qui ont lieu dans l'évolution. Bon, mais ça a bien sûr une limite. La limite, c'est que du coup, on ne dit plus rien sur les relations causales que les objets biologiques peuvent avoir. Donc pour la médecine, par exemple, pour l'agriculture, ou même pour la préservation de la biodiversité, c'est très limité. Pour l'aspect pratique, en fait, et l'aspect technologique qui allait si bien avec la physique. Donc ma perspective ici, c'est d'hybrider ces deux types de raisonnement et d'adopter en quelque sorte une épistémologie bâtarde qui garde certains éléments de la physique, par exemple la possibilité de faire des mathématiques, à travers une notion un peu différente que celle de des lois et des symétries fondamentales en physique, mais de parler seulement de contraintes, donc quelque chose de plus souple, mais aussi de signifier la centralité de cette épistémologie historique qu'il y a en biologie et que la biologie a inventée, en tout cas dans le domaine des sciences naturelles. Et en fait, cette épistémologie historique, elle est absolument essentielle pour parler des organismes, y compris dans la biologie expérimentale de tous les jours. Hein, c'est-à-dire que quand on veut parler d'une souche de souris, par exemple, on se réfère à leur origine généalogique, mais aussi les laboratoires dans lesquels les souris sont élevées, etc. Mais si on parle d'animaux sauvages, on va aussi identifier leur généalogie, leur provenance, etc. Donc on ne les définit pas par leur relation causale comme en physique. Et donc on ne peut pas clore la description causale des objets, parce que justement la description causale est incomplète. Donc pour essayer d'accommoder ces deux choses et d'instancier théoriquement cette épistémologie bâtarde, ce que j'ai proposé avec Matteo Moscio, c'est d'introduire une nouvelle écriture combinant ces deux épistémologies. Alors c'est un travail initié, mais qui reste aussi très largement à faire. Et l'idée, en passant par cette question de l'écriture, qui n'est pas qu'une écriture mathématique, c'est une écriture avec un symbole particulier, qui est un symbole justement, qui n'est pas une variable, c'est aussi de parler aux physiciens et aux cybernéticiens, pour lesquels l'écriture mathématique est ce qui est au centre, alors que les concepts sont vus justement comme difficiles à appréhender, disons. Alors, ces questions-là ont toutes sortes de ramifications. Par exemple, dans un article publié dans Philosophy World Democracy récemment par Charles Balellani et Claudio Reis, l'idée est que en appréhendant la connaissance des êtres vivants comme contextuelle, qui est aussi un des aspects de cette approche, on peut prendre soin justement des écosystèmes, prendre soin des êtres vivants, mais ça suppose aussi de s'éloigner d'une biologie qui elle est centrée sur l'idée de produire des choses pour les marchés. Donc il y a énormément de nouvelles questions à ces interfaces, mais je vais passer rapidement parce que sinon je vais nous mettre en retard. Ce que je veux souligner peut-être pour finir, c'est que comprendre le vivant dans son historicité, c'est à la fois comprendre le fait qu'il provient d'une histoire très longue, l'évolution, et puis il y a aussi l'histoire développementale de chaque individu. Et ça, c'est un aspect qui est absolument absent de la physique, et c'est un aspect qui correspond à des vulnérabilités particulières. Et ces vulnérabilités sont ce que, dans le domaine de la biologie, j'appelle des disruptions, mais en me basant sur des usages non conceptualisé existant en biologie, et sachant que le terme de disruption est absent de la physique. Et derrière ma conceptualisation des disruptions donc en biologie, il y a cette idée que le vivant produit des êtres singuliers, très particuliers, singuliers, spécifiques, justement, et qui sont viables par cette singularité. Et ce qui se passe dans l'Anthropocène, c'est que ces singularités deviennent plus aléatoires, sont en quelque sorte brouillées. L'articulation, par exemple, entre la température dans l'année avec le changement climatique, les précipitations, la durée du jour, tout ça devient décalé par rapport aux situations antérieures. Et ça, c'est une vulnérabilité particulière du vivant qui vient de son histoire, et qui est l'origine des disruptions, autres disruptions, bien sûr, les perturbateurs endocriniens, des milliers de nouvelles espèces chimiques dans l'environnement, donc un environnement chimique qui change très vite, et qui vient brouiller l'action des hormones dans le corps. Et donc ce type de raisonnement, c'est-à-dire que dire en fait que ce qui est viable l'est par sa singularité historique et est en quelque sorte rare, ça rejoint la question de la philosophie, au sens précisément où Jean-Luc Nancy le dit, contrairement aux sagesses ou aux méditations existant dans d'autres cultures, la philosophie suppose un travail particulier, pour articuler un peu Jean-Luc Nancy et Bernard Stiegler, et c'est ce travail particulier qui est prendre soin des vivants, des techniques dans l'Anthropocène. Voilà, je vous remercie pour votre attention.